vivent et ne pas nous laisser envahir et submerger par elles dans un élan de destruction. L'objectif à atteindre, transformer cette formidable énergie et la canaliser en un potentiel créatif et constructif. La route est longue pour atteindre la paix intérieure et l'harmonie relationnelle. Certains y arrivent tout à fait, d'autres en partie seulement, d'autres encore pas du tout, car ils se sont engagés trop loin dans le refus des prises de conscience et le piège de la destruction. Il est de la responsabilité de chacun de tenter la route comme un voyage d'aventure dont on ne connaît pas tout à fait les destinations, les rencontres fortuites et les nouveaux paysages. Partons du principe que l'équilibre psychologique est étroitement lié à la capacité de gérer les envahissements émotifs, comme les colères, et de faire le tri entre les colères saines, aux expressions adaptées, et celles qui ne le sont pas, dans leurs expressions inadaptées. Dans le royaume des colères, certaines sont en effet tout à fait souhaitables et salutaires. Elles nous permettent de nous protéger et de nous défendre contre ceux qui nous agressent et nous manquent de respect. Elles constituent alors un excellent moyen d'instaurer une distance explicite avec l'autre et de lui rappeler qu'il entre sur un terrain d'intimité et de familiarité dont on ne lui permet pas l'accès, quelles que soient les divergences. D'autres colères sont névrotiques et prennent des formes diverses. Elles sont réprimées alors qu'elles sont nécessaires ou surdimensionnées et évacuées dans une perte de contrôle alors qu'elles devraient être contenues. Par exemple, dans une relation de couple, les colères névrotiques ne seront pas nommées avec des mots, mais plutôt exprimées de façon détournée dans un acte de désengagement amoureux tel que l'adultère. Lorsque l'expression de la colère est perturbée ou abusive, on peut la voir comme une maladie qui affecte sérieusement la qualité de vie de la personne qui en est atteinte. Comme toute maladie, elle peut s'aggraver, dégénérer et ultimement mener à la mort. Difficile, a priori, de voir en la colère ce lien direct de cause à effet. Pourtant, si l'on veut mieux comprendre, retenons d'emblée que la colère est une émotion, un mouvement intérieur qui agit et trouble le fonctionnement global d'un individu sous l'emprise d'une idée et d'une situation qui l'irrite. En cela, la colère a des répercussions diversifiées qui méritent d'être considérées à la fois sur les plans psychologiques et physiologiques. En psychologie, on conçoit la colère comme une émotion qui traduit un manque, une blessure ou une frustration. L'intensité avec laquelle elle est vécue peut mener à une perte de contrôle, partielle ou totale, qui pousse alors la personne à se heurter elle-même par des comportements d'autodestruction ou à heurter l'autre par des comportements d'agression. Sur le plan physiologique, je considère la colère comme un symptôme d'anxiété et un excellent indicateur du stress. Cerner les liens que nous entretenons avec nos colères conscientes et inconscientes est la voie royale pour nous aider à résoudre les conflits avec nous-mêmes et les autres et à combattre le stress. En apprenant à mieux gérer nos colères, nous apprenons à prendre conscience des échanges constants entre notre corps et notre esprit et des impacts permanents de l'un sur l'autre. En apprenant à mieux gérer nos colères, nous apprenons tout simplement à être plus heureux et sereins, malgré les bombardements répétés des frustrations possibles du quotidien. Nous agissons alors directement sur notre santé physique et mentale dans une nouvelle capacité à vivre avec nous-mêmes de façon plus harmonieuse. Je ne partage pas la position de certains auteurs qui pensent que la colère est une émotion simple. Lorsqu'on saisit mieux le vaste spectre de ses expressions et de ses ramifications dans nos rapports multiples à notre environnement, il est plus envisageable de la considérer comme une émotion complexe que nous devons irrémédiablement apprivoiser pour ne plus subir ses effets désastreux. Dans mon livre « Vérité ou conséquences » publié aux éditions de l'Homme, j'exprimais combien les mensonges et les non-dits sont néfastes en ce qu'ils nous éloignent radicalement du bonheur de l'authenticité. Je préconisais donc d'oser l'authenticité envers soi dans un vaste mouvement intérieur d'introspection, mais aussi en couple, dans un bilan franc et honnête avec le partenaire de vie et en famille, particulièrement en cultivant l'art du discours vrai et des actes de bienveillance envers l'enfant. Je sais que bon nombre de gens aspirent à cet élan de vie. Je constate au quotidien combien peu y parviennent. De longue date, j'ai cherché à saisir les points communs de ceux qui butent perpétuellement contre leur histoire, empêchés qu'ils sont de passer à une autre étape, bloqués dans leur propre évolution, statiques. Tous ont été profondément blessés dans l'enfance au point d'avoir perdu, à défaut d'avoir pu développer, la liberté d'accéder à leur propre authenticité.